morning edition from NPR News.
Wenn Sie dies an Bieber aussehen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, avec Bertrand Badi, nous essaierons de voir à quoi va ressembler le quinquennat diplomatique d'Emmanuel Macron, qui a 2 mois de présidence de l'Union devant lui. Est-ce qu'il reste l'interlocuteur potentiel de Vladimir Poutine? Doit-il l'être? Est-ce qu'il a intérêt à se rendre à Kiev chez Zelensky assez vite? Comment imprimera-t-il sa marque pour les 5 ans à venir? On voit ça dans un tout petit instant. Le bruit du monde, tiens, justement, est au Mali, avec le dernier convoi qui quitte le pays pour s'installer de l'autre côté de la frontière. Et puis, dans le bruit du monde de la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé le Soudan qui se rappelle à notre bon souvenir, les Russes qui disent donc avoir empêché l'assassinat d'une journaliste et une Bolivienne indigène qui chante du rap. 18h50, passons genre dans le monde, et Julia Foyce avec une école de samba LGBT au Brésil et une étude sur la charge mentale comme Julia les adore. 18h55, c'est le monde d'après, de Claude Guibal en Turquie, où hier Osman Kavala, le mécène bête noire d'Erdogan, a été condamné à la prison à perpétuité. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bertrand Badi.
Bonsoir.
Professeur émérite à Sciences Po, bien sûr, auteur notamment de Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, publié chez Odile Jacob. Bertrand Badi, les questions internationales en général ont très peu de place dans une campagne électorale. Cette fois, bien au contraire, les Européens, on les a entendus d'ailleurs ici même, ont tous dit leur soulagement qu'Emmanuel Macron ait été réélu. Maintenant, est-ce que la guerre en Ukraine, de toute façon, change intégralement les priorités diplomatiques d'Emmanuel Macron? Diriez-vous ça pour un second mandat d'Emmanuel Macron et du président de l'Union, Emmanuel Macron d'ailleurs?
La guerre en Ukraine est en train de reconstituer le système international. Donc évidemment, ça rétroagit sur la politique étrangère française. Ceci étant, je vous dirais peut-être paradoxalement, ça vous étonnera peut-être, que ce n'est pas le dossier le plus difficile pour le président de la République. Il y a l'Afrique, le Sahel, qu'on a tendance à laisser sous la table en ce moment, mais qui est brûlant et dont on ne voit pas l'esquisse d'une sortie. Il y a la sécurité globale, les grands enjeux, l'enjeu climatique dont on parle beaucoup. Mais le problème, c'est que ce sont des enjeux dont on parle beaucoup depuis des années et des années, mais à propos desquels on ne fait pas grand-chose. Il va falloir trouver maintenant un chemin pour produire une politique concrète. C'est un autre défi majeur. Il y a les Nations Unies qui ne marchent pas du tout. Mmh. On l'a vu, on pourrait presque plagier une célèbre formule en disant que les Nations Unies étaient en état de mort cérébrale et pendant le Covid et pendant la crise ukrainienne. La France a des responsabilités au sein des Nations Unies, dont elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Et la France, le président Macron l'avait rappelé dans plusieurs discours à l'Assemblée Générale, en septembre 2017, en septembre 2018, où il lançait un véritable plaidoyer pour la refonte des Nations Unies, et puis, peut-être le chapitre le plus dur, la réinvention de l'Europe, dont on nous parle depuis le discours de Strasbourg, au début du précédent quinquennat, et dont on ne voit que quelques timides approches, il faut quand même en tenir compte, mais quand même des phénomènes de division qui sont en train d'éclater au-delà de ce ripollinage que la crise ukrainienne avait donné sur la surface des 27. Je pense notamment à ce désaccord explicite entre Varsovie et Paris, mais qui cache bien d'autres désaccords.
Alors justement, j'allais vous y emmener. Est-ce que c'est pas ça le plus dur travail? Au fond, c'est conserver cette union qui, jusqu'à présent, s'est plutôt très très bien tenue depuis le début de la guerre en Ukraine notamment. On commence à voir effectivement un certain nombre de choses qui craquellent, avec l'Allemagne aussi d'ailleurs, notre plus fidèle allié, on met ça entre guillemets, avec les Polonais, vous l'avez dit, qui veulent qu'on soit plus rude, avec les Russes, avec les Hongrois qui veulent qu'on le soit moins. Donc est-ce que le premier travail, c'est pas ça, c'est tâcher de maintenir cette union-là, ou en tout cas de montrer qu'on est toujours 27, effectivement, autour de cette table?
Je crois que c'est très important parce que l'Europe a essuyé quantité de défis. Le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mais aussi, on n'en parle peut-être pas assez, ce repositionnement des États-Unis qui était manifeste du temps de Trump, mais qui aujourd'hui, avec Biden, porte l'héritage de ce national-populisme qui est encore très vivace aux États-Unis et qui éloigne ce qui était le leader du monde il y a encore peu de temps, du vieux continent. Et donc, il faut trouver ce nouveau dénominateur commun. Le président de la République avait raison d'employer le terme de réinvention. On en est là. On a inventé l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il faut la réinventer aujourd'hui, alors qu'on nous dit proche d'autres défis, et je dirais de la guerre mondialisée que nous connaissons actuellement.
Bon, on va revenir à ce terme d'ailleurs, mais vous dites « nous éloigne des États-Unis ». C'est vrai que la crise ukrainienne a donné raison à Emmanuel Macron sur l'indépendance stratégique de l'Europe, a donné raison à Emmanuel Macron sur la défense européenne. En même temps, tout ça, on en verra pas le bout, même à court terme, même à moyen terme, et peut-être d'ailleurs à très 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 long terme. Donc ça veut dire qu'il y a, à cause de l'impératif d'aller vite, forcément un rapprochement avec les États-Unis. On voit bien même que la Suède et la Finlande sont en train de taper à la porte de l'OTAN. Donc est-ce que, de fait, de toute façon, on ne s'éloigne pas, on est en train de se rapprocher, nous les Français, et également des États-Unis ?
Oui, oui, d'abord parce qu'il y a un défi commun. Et effectivement,
et parce qu'on n'a pas les moyens, pour l'instant, en tout cas, notamment au regard de la guerre en Ukraine, de se passer de...
Parce qu'on n'a pas non plus les moyens, mais parce que on découvre, à travers tout ce vocabulaire sur l'autonomie stratégique ou sur la souveraineté européenne, on retrouve, je dirais, à contrepoint, la nécessité de se définir hors du référent états-unien. Et il ne faut pas oublier que c'est presque consensuel dans la mesure où à Washington, on a de plus en plus tendance à dire, à considérer que pour les affaires européennes, les Européens doivent être en première ligne et se débrouiller tout seuls. Il ne faut pas croire que dans ce monde reconstruit après la chute du mur, reconstruit dans le contexte de la mondialisation, reconstruit face à la montée des puissances émergentes, les États-Unis garderont la même place et le même statut.
Et en même temps, Bertrand Maddy, on se dit que l'une des idées d'Emmanuel Macron était de trouver une place entre la guerre que se livrent les Américains et les Chinois, par exemple, d'être une espèce de forme d'alternative. Et on se rend compte, au regard de la guerre en Ukraine, que non, on n'est pas l'alternative. On a terriblement encore besoin de ce grand voisin américain, quoi qu'on en dise. Là, sur les livraisons d'armes, sans eux, on n'est pas grand-chose. Et beaucoup d'autres points aussi, non ?
Alors, je dirais qu'on découvre à la faveur, si je puis dire, de cette guerre, effectivement, notre dépendance à l'égard des États-Unis, certes, mais je dirais à l'égard de la mondialisation en général. Le grand problème de cette guerre que je me suis permis d'appeler guerre mondialisée, ce qui est un concept nouveau, parce que le contexte est tout à fait nouveau, c'est que l'on voit à quel point tout ce que nous faisons a des répercussions sur le monde entier et dépend également du monde entier. C'est ça la véritable équation. Je pense que le vrai défi qui s'offre à un dirigeant du monde aujourd'hui, donc au président nouvellement élu, c'est de construire cette équation. C'est-à-dire comment se situer dans le monde, alors que l'histoire de l'Europe, ça a été quand même très longtemps de se situer par rapport à elle-même. Des siècles et des siècles de relations internationales, et jusqu'en 1989, faisaient que la diplomatie consistait à organiser les rapports entre vieilles puissances. Ben aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça.
Est-ce que vous diriez, Bertrand Maddy, que, y compris au nom de l'Europe d'ailleurs, maintenant, Emmanuel Macron doit maintenir un semblant dialogue avec Vladimir Poutine, voire s'asseoir à nouveau, s'il le faut, en face de lui, dans une table, quelle que soit sa taille ?
Alors, il faut distinguer deux aspects à cette question, qui est une question redoutable, effectivement. Le premier est d'une grande banalité, vous savez. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai appris que la définition de la diplomatie, c'était l'art de gérer les séparations. C'est-à-dire, le diplomate est utile quand il y a des séparations. Et la séparation, y compris dans sa phase paroxystique qu'est la guerre, ne peut en aucun cas éteindre la diplomatie, puisque la diplomatie est là pour éviter que l'on aille toujours vers pire. Donc, ce dialogue doit être maintenu, comme il a été maintenu durant toutes les guerres que nous avons connues dans notre histoire, et y compris dans notre histoire contemporaine. Maintenant, derrière cette première question apparaît une seconde. L'une des marques fondamentales de notre monde post-1945, c'est qu'on ne gagne plus les guerres. Le sort des armes n'est plus déterminant comme il l'était autrefois. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on s'engage dans une guerre, c'est vrai pour le Vietnam, c'est vrai pour les guerres de décolonisation, c'est vrai pour l'Irak, c'est vrai pour l'Afghanistan, eh bien, ce ne sont plus les armes et les batailles qui vont décider, c'est effectivement les choix et les options politiques. Et de ce point de vue-là, on sait très bien que M. Poutine ne prendra pas Kiev et que l'Occident ne prendra pas Moscou. Donc, il va falloir nécessairement passer par un transfert politique. Le problème, c'est que le dilemme est terrible. Si on passe aux politiques et à la négociation, on risque, pour faire aboutir la négociation, de valider a posteriori l'opération militaire que la Russie a menée sur l'Ukraine, en lui donnant quelques petites compensations pour qu'elle arrête la guerre. Mais si on ne le fait pas, on risque de s'enfermer progressivement dans une guerre totale dont on sait que personne ne sortira vainqueur. La ligne de crête est complexe.
Ça veut dire qu'il faut que nous prenions l'initiative, ou pas ?
Ça veut dire que nous devons contrôler les mécanismes de la négociation pour que, certes, on n'y échappera pas. Personne ne se considère comme totalement humilié parce que ça pourrait le pousser au suicide et donc la terre entière par la même occasion, mais que des résultats de cette négociation ne sortent pas une victoire qui pourrait encourager le même à recommencer ou d'autres à limiter. C'est effectivement très difficile. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement il est hors de question de jeter la pierre au président de la République lorsqu'il essaye de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, mais j'aimerais bien entendre ses contradicteurs expliquer ce que l'on peut faire à la place. On n'ira pas occuper la Russie, prendre Poutine et le juger sur la place publique, on n'en est pas là. Donc effectivement, il faut trouver cette situation, ce point d'équilibre qui épargnera au maximum les vies humaines et notamment les vies ukrainiennes.
Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron a perdu le fil avec Zelensky ces dernières semaines ? Il a été considéré comme frileux, il a refusé d'employer le terme de génocide, etc. Et qu'il faut raccommoder ce fil assez vite. On a vu qu'il y avait un certain nombre de dirigeants qui se dirigeaient vers Kiev. Faut-il qu'il y a, lui aussi, assez vite d'ailleurs, diriez-vous ça ?
Moi, je n'ai pas le sentiment, en écoutant les uns et les autres, et notamment le président ukrainien, qu'il y a eu un rejet l'attitude d'Emmanuel Macron, parce que chacun sait qu'effectivement, ce type de contact, appelons ça contact, si vous voulez, plus que négociation, est quelque chose d'utile, de nécessaire, de fonctionnel. C'est pas forcément le beau rôle, mais c'est une fonction dans le jeu international, une fonction qu'il faut accomplir. Et il est quand même important de constater qu'elle est accompli en binôme, c'est-à-dire que le chancelier allemand est sur une posture assez proche, là où Joe Biden profite de la facilité de l'éloignement et où Boris Johnson a le beau rôle, effectivement, de l'acteur individualisé qui finalement n'est pas investi de beaucoup de responsabilités sur le plan international.
Est-ce que vous diriez, si vous regardez les 5 ans qui viennent de s'écouler, et donc en imaginant les 5 suivants, est-ce que vous diriez qu'il y a une marque diplomatique d'Emmanuel Macron, quelque chose dont, qu'on appellerait une doctrine si nous étions de l'autre côté de l'Atlantique ? Est-ce que ça existe chez Macron ou pas ?
Si vous permettez, c'est une belle question, mais qui est extrêmement complexe. Je dirais, il y a eu l'énoncé de principe. Si vous reprenez les discours de la campagne électorale de 2017, il y avait toute une série de principes qui sont des grands principes, notamment relance du multilatéralisme, réinvention de l'Europe, et je dirais l'auto-attribution par la France de ce rôle d'acteur militant d'une renaissance du système international. C'était très beau, très ambitieux, et comme ce qui est beau et ambitieux, ça a souvent conduit à l'accusation d'arrogance chez nos partenaires et au-delà encore. Et il ne faut pas oublier, c'est très important quand il s'agit de la diplomatie française, que la France est un régime présidentiel et que la présidentialisation de la politique étrangère pousse à cette attitude un peu arrogante, volontariste, de chevalier servant du système international. Si maintenant nous passons non pas au principe énoncé, mais à la pratique du quinquennat, là les choses sont beaucoup plus obscures. Mmh. Parce que les grands principes en matière de multilatéralisme n'ont pas vu même d'aboutissement à des propositions concrètes par la France de réforme de ce multilatéralisme et du système onusien. Et nous avons notamment laissé échapper l'occasion que nous offrait le Covid de proposer une gouvernance sanitaire mondiale dans la ligne de ce qu'avait énoncé Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. Il ne l'a pas fait. Le dossier africain s'est traduit par un échec. Mmh. Un échec patenté dont on parle peu parce que on parle surtout de l'Ukraine et c'est normal.
Le dossier africain, le dossier algérien, le dossier libanais.
Voilà. Et on pourrait aussi parler de la Turquie, on pourrait aussi parler du Pacifique et quand même de ce revers qu'a constitué l'affaire AUKUS. Et donc, il y a un décalage entre des principes clairs qui auraient pu faire presque un vrai manuel de politique étrangère macronienne et une pratique qui n'a pas été véritablement en harmonie avec ce qui est annoncé. Ceci dit, ne jetons pas la pierre non plus. Il faut dire que c'était bien difficile pour Emmanuel Macron de trouver des alliés dans ses projets de réforme.
Tant que je vous tiens, Bertrand Badi, et d'ailleurs dans les télés qui sont au-dessus, je vois Vladimir Poutine et son évocation de la Troisième Guerre mondiale. C'était celle de Lavrov peu de temps avant, quelques heures avant. On voit bien les soubresauts qui se passent en ce moment en Transnistrie, cette déstabilisation dans ces coins-là qui est vraiment cousue de fil blanc. Est-ce que vous voyez cette guerre dégénérer là maintenant, au moment où on se parle?
Je pense que lorsque l'on crie de la sorte, c'est parce qu'on a peur. Je pense que Vladimir Poutine est en train de découvrir que son projet, qui était un projet de conquête en fait, d'annexion, n'est pas réalisable. Qu'il a besoin, on en parlait il y a un instant, d'une sortie politique. Que dans le contexte actuel, Zelensky, voyant la frayeur russe, n'est pas soudain plus vraiment pressé d'aller à la table de négociation. Pour faire pression sur Zelensky et d'une façon générale sur les Occidentaux pour relancer une négociation qui permettrait à Poutine de sortir à moindre frais, eh bien, il a besoin d'agiter des spectres. C'est le spectre de la Troisième Guerre mondiale, c'est le spectre de la Transnistrie. On va peut-être parler d'autres spectres bientôt. Ça peut être un message, je dirais, paradoxalement, d'encouragement et d'espoir. Mais quand vous dites dégénéré, vous désignez un phénomène physique qui est tout à fait répertorié. Il y a un risque que, effectivement, ça n'accroche pas. Et alors, à ce moment-là, on ne sait pas où ça s'arrêtera.
Bertrand Badi, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Vous savez que vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. La suite, ce soir.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Régulièrement, je mange le jingle. La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Bon. Ça se passe au Mali. Vous suivrez avec nous le départ du dernier convoi dans le sable, la poussière et les pannes régulières. Le bruit du monde, la suite sous les radars, c'est vous, Sébastien Legénie.
On ira à la découverte d'une rappeuse très atypique en Bolivie. Elle rappe en tenue traditionnelle et sur fond de flûte de pan.
Façon genre dans le monde, Julia Foyce. Bonsoir à vous, Julia.
Bonsoir. Et la première école de samba LGBT qui rejoint le cortège au carnaval de Rio, c'était ce week-end.
Et le monde d'après, Claude Guibal, bonsoir à vous.
Bonsoir. Nous, on parlera de l'acharnement obsessionnel du président turc Recep Tayyip Erdogan envers sa bête noire, le philanthrope Osman Kavala, condamné hier à perpétuité.
Allez, à tout de suite, on est déjà en retard. Le tour de la planète continue, il passe par la France et par New York avec Rover, qui est français, qui a passé son enfance à New York. Voici un extrait de son dernier album, ça s'appelle Burning Flood et c'est sur France Inter.
I haven't seen you for days now. Winter is striking hard. Made my way to the earth. I'll stay. I feel like open sky. Could we ever believe it's wrong? I feed out the open minds. I will feel like you're on your own. I guess you're doing
Le bruit du monde est au Mali, ce soir où l'opération Barkhane a commencé son déménagement, vous le savez, vers les pays frontaliers. C'était prévu, annoncé depuis la mi-février. Vous allez comprendre à quel point c'est un défi logistique. Je vous embarque ce soir dans le dernier convoi qui quitte Gossi, où la première base française a été transférée aux forces maliennes le 19 avril dernier. Du sable chaud, un soleil de plomb, du bitume et des pannes. Le reste, c'est Paul Logerie qui raconte.
Non, ici, les gardistes n'ont pas fini, mais Barkhane va partir. Nous, on n'est pas contents.
Moussa charge les derniers des 400 conteneurs sur son camion. Près de 10 ans qu'il travaille avec les militaires français depuis l'opération Serval en 2012. Mais aujourd'hui, il déménage, remballe les cartons, ou plutôt les générateurs, armements et tout le reste. Quelques lits picots, les sanitaires, un bunker pour se protéger des tirs de mortier. Il ne reste plus grand-chose. Le capitaine Jérôme, à la manœuvre sur ce que les militaires appellent une base opérationnelle avancée, une BOA, a dû se relever les manches un 17 février, alors qu'Emmanuel Macron annonçait le retrait.
J'étais arrivé ici avec la mission de contrôler la zone de Gossi et de ses approches. Lorsque le président de la République a annoncé la réarticulation de la force, j'ai donc reçu comme nouvelle mission de réarticuler les éléments et la BOA de Gossi vers Gao, en bon ordre, en sécurité et en sûreté tactique.
Vider la base est une chose, organiser le rapatriement du matériel vers Gao, où se trouve le gros des troupes, en est une autre. Les 60 camions nécessaires au dernier convoi ne passent pas sur ce qui est désormais un parking de sable chaud, coincé entre quatre murs d'enceinte. Sans compter l'escorte, forte de 40 véhicules. Ce qu'explique le colonel Paul, en charge du groupement tactique des airs 1, qui sécurise le convoi.
C'est une petite base, il n'y a pas assez de place pour loger tout le monde. Donc du coup, chaque fois qu'on vient sur cette base avec les convois chargent les véhicules sur la base, mais en revanche, passent la nuit à l'extérieur de la base, sur une autre petite base qu'on crée à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on a créé ici, à moins d'un kilomètre et demi, une base à l'extérieur, en toute sécurité, pour protéger tout le dispositif militaire et les convoyeurs
civils. Retour sur Gao. Avant de parler de la cinématique, petit point sur le convoi.
Le départ est fixé à 5h30. Le visage encore chiffonné par une nuit trop courte et 5 jours sur la route, le lieutenant Imran et ses hommes qui s'occupent de la sécurisation de l'arrière du convoi s'engagent entre les camions.
Le premier changement, c'est que Sparrow, mon stick 1, n'est pas avec nous. Sparrow rentrera avec Bleu, prendra sa place Faucon 04 et Faucon 60 qui étaient initialement dans le stick 2.
Il leur faudra 36 heures pour parcourir les 160 km qui relient Gossi à Gao, à raison de 15 km par heure, au beau milieu d'une zone sous influence du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale mouvance djihadiste au Mali, affiliée à Al-Qaïda.
On n'a pas en tête la belle autoroute française. Là, on est bien au milieu du désert, avec tantôt des gros nids de poules. Il y a plusieurs risques à ça. D'abord, des risques mécaniques, comme des crevaisons, des dégradations des véhicules. La deuxième chose, c'est les risques directs ennemis. Et la dernière chose qui nous ralentit, ce sont les véhicules civils qui, eux, ne sont pas des véhicules blindés faits pour rouler au milieu du désert.
30 pannes en tout. En plein cagnard, militaires et conducteurs du convoi sortent les criquets, les chaînes, les roues de secours. Il faut parfois plus d'une heure pour réparer.
Il y a une plaquette de son système de freinage qui s'est décollée et qui a bloqué la roue. Donc il ne peut plus avancer. Et là, on soulage la roue pour que il puisse reprendre le chemin le plus vite possible. Donc là, on fait une méthode non conventionnelle et ça n'a pas encore l'air de prendre. Donc, on réfléchit et on avise.
En fait, ce retrait, c'est le fruit d'une rixe diplomatique de plusieurs mois avec les autorités maliennes de la transition au pouvoir depuis août 2020. Au cœur des désaccords, deux coups d'État successifs et l'arrivée d'un nouveau partenaire au Mali, bête noire de la France en Afrique. Les mercenaires de la société Wagner, principalement présents dans le centre du pays et qui, selon plusieurs personnes sur place, se seraient déjà emparés de la base de Gossi, 24 heures à peine après le départ de Barkhane. En tout cas, les travaux ont déjà commencé sur la base de Gao, non loin de l'aéroport, deux soldats à la vingtaine à peine, des membres des Algeco qui servaient de chambre, le baume au cœur.
Participer à la déconstruction, c'est toujours... ça fait chaud au cœur, quoi. C'est ça, on participe à l'histoire, on se dit qu'on marque l'histoire quelque part, donc c'est impressionnant. Ça fait, je vais me rappeler toute ma vie.
Et tout doit disparaître d'ici la fin de l'été pour un transfert d'une partie du matériel du Mali vers le Niger voisin, qui est loin d'être épargné par le risque djihadiste.
Paul Logerie pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Et direction Moscou, pour commencer, Sébastien, où les services secrets russes disent avoir empêché l'assassinat d'un journaliste vedette.
Oui, le journaliste en question s'appelle Vladimir Soloviev. C'est l'une des stars de la première chaîne publique Rossiya, 50 millions de téléspectateurs. C'est surtout l'un des relais médiatiques les plus puissants du Kremlin. Vladimir Soloviev, très proche de Vladimir Poutine, grand défenseur de l'offensive russe en Ukraine, sanctionné par les pays occidentaux. Ces trois villas italiennes sur le lac de Côme ont été gelées et l'une de ces piscines a été prise pour cible récemment par des anti-Poutine, de la peinture rouge versée dans l'eau transformant le bassin en piscine de sang. On entend là la morgue de cet oligarque médiatique. C'est donc lui que les services secrets russes auraient sauvé d'une mort certaine. Le FSB dit avoir arrêté des membres d'un groupe néo-nazi qui projetait de tuer Vladimir Soloviev sur ordre de Kiev. Impossible de vérifier l'information. Alors le FSB a publié hier des photos de la perquisition prouvant, selon eux, ce complot criminel. Des photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des armes, bien sûr, et puis une photo d'Hitler scotché sur un haut-parleur pour ordinateur, un t-shirt presque neuf avec une croix gammée, un patch avec une tête de mort faisant référence au Troisième Reich. Bref, l'attirail presque trop parfait d'un groupe néo-nazi. Mais il y a aussi un détail qui retient l'attention des internautes les plus facétieux. Un jeu vidéo, les Sims 3, présenté comme une prise de guerre parmi les autres objets. D'aucuns y voient la signature de ce qu'ils pensent être une perquisition montée de toutes pièces par le FSB. Les Sims 3 auraient peut-être été confondu, disent-ils, avec trois SIM cards utiles pour le téléphone, rien à voir. En clair, possiblement une erreur sur la liste de courses des services secrets.
Le Darfour renoue avec les violences depuis plusieurs mois.
Le Darfour à l'ouest du Soudan, ravagé, on le sait, par une guerre civile en 2003, entre le régime à majorité arabe et les insurgés issus de minorités ethniques. Et depuis deux ans, les tensions remontent dans cette région, avec ce week-end l'un des plus lourds bilans depuis des mois. Au moins 168 personnes ont été tuées dimanche dernier, un village peuplé de massalites attaqué par des miliciens arabes dans une zone très contestée, en pick-up, à moto, à cheval. Et Janjaweed, comme on les appelle, ont commencé par encercler le village avant de tout détruire, de tuer, de faire fuir les populations locales pour empêcher que la vie ne reprenne. Les combats se sont étendus hier à la capitale, El Geneina, d'où une partie des habitants également a fui et où la situation est encore confuse aujourd'hui. Ces combats meurtriers sont le dernier épisode en date d'une série de règlements de compte entre communautés qui se battent pour le contrôle des territoires. Les miliciens arabes cherchent à empêcher l'installation pérenne des déplacés revenus s'installer sur leurs terres après la chute il y a trois ans du régime d'Omar el-Béchir. Car dans ce coin reculé du Soudan, proche de la frontière avec le Tchad, eh bien les populations arabes et massalites s'affrontent surtout pour des points d'eau, des pâturages, les seules richesses de ce coin du Darfour. En 2003, le conflit avait fait là-bas 300 000 morts, 2,5 millions de déplacés.
Et on termine en Bolivie avec une rappeuse indigène.
Aloua a 26 ans et cette jeune Bolivienne revendique d'être la première chanteuse de rap issue des peuples amérindiens. Elle est d'origine aymara, cette minorité ethnique précolombienne issue des bords du lac Titicaca. Aloua arbore fièrement la poyera, l'ample jupe traditionnelle bolivienne. Elle porte le chapeau melon typique sur ses longues tresses noires. Aloua qui chante et danse comme les vrais, mais sur de la flûte de Pan.
No me importa si la gente se alborota con mi música, solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar, díganle también que yo viviré de rap.
Voilà, Aloua et son flow tout droit sorti des Andes. Aloua la rebelle qui dans ses textes dénonce le mépris auquel font encore face les Cholas, les femmes indigènes en Bolivie. Son premier disque doit sortir d'ici quelques semaines. On retrouve la vidéo sur le site de Sous les Radars.
Allez voir, ouais, parce que c'est assez étonnant. Merci beaucoup Sébastien. Dans un style très différent, voici les Temptations. Cloud 9, ça date de 1968 et c'est dans Un jour dans le monde.
Slept in a chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my trouble man. Listen, my father
the meaning of work. He disrespected mama and treated us like that. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks now, they tell me, they say, give yourself a chance, and don't let life pass you by. But the wild reality of a rat race, where only the strongest survive.
Les Temptations et Cloud Nine sur France Inter. Allez, mesdames, messieurs et autres gens, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT, planète qui exultait ce week-end à Rio avec la toute première école de samba LGBT.
Et écoutez-moi ça. Le carnaval de Rio ressuscité, c'était ce week-end, première édition depuis le début du Covid de ce qu'on a coutume d'appeler la plus grande fête du monde. Dans un pays qui paye l'un des plus lourds tributs à la pandémie, ce rendez-vous incontournable avait pourtant été annulé 2 années de suite et décalé de 2 mois encore cette année. Ce que vous entendez, Fabienne, c'est la ville qui respire. C'est la rue qui exulte, c'est la vie qui reprend sur les 800 mètres du Sambodrome, là où ont défilé 2 nuits d'affilée pas moins de 3000 danseurs. C'était le week-end dernier, comme chaque fois, c'est un déluge de paillettes, une explosion de couleurs, c'est d'une sensualité et d'une joie folle. Mais ce carnaval, issu, on le rappelle, hein, des favelas de la ville, c'est le lieu aussi de la contestation sociale, l'endroit où, édition après édition, des messages passent. Cette année encore, on a croisé des chars contre le racisme, contre la destruction de la forêt amazonienne ou encore contre les violences policières, mais aussi pour les droits des personnes LGBT. Mieux, pour la toute première fois donc, une école de samba issue de cette communauté s'était jointe au cortège. L'idée de sa fondatrice, épouse d'un policier travaillant dans le quartier de Bangou à l'ouest de la ville, est assez simple. La grande majorité de celles et de ceux qui tous les ans fabriquent les costumes, coiffent ou maquillent pour que la fête soit la plus belle possible sont lesbiennes, gays, bi ou trans. Il n'était pas normal, dit-elle, qu'elles restent en coulisses, pas normal qu'on ne les voit pas. Alors on les a vus, derrière leur égérie, Louise Murelli, drag queen d'1m90, brandissant un drapeau Bangay, c'est le nom de cette école de samba. Bangay, c'est le symbole, c'est un symbole, aussi un tigre blanc, parce que, je cite, le blanc est la somme de toutes les couleurs, et sans doute parce qu'il en faut de la force et du courage pour défiler en assumant qui on est et qui on aime dans un pays dont le président multiplie les sorties homophobes, dans un pays où l'an dernier, par exemple, 140 personnes trans ont été assassinées en raison de leur identité.
Julien, on connaissait la pilule du lendemain, voici la pilule des 5 jours après.
Et c'est en Italie qu'elle va pour finir être commercialisée. Toutes les Italiennes et même les mineurs auront 5 jours après un rapport à risque pour aller chercher en pharmacie et sans ordonnance un comprimé interrompant toute éventuelle grossesse non désirée. Si je dis pour finir, c'est que cette pilule avait été annoncée il y a maintenant 2 ans, mais que les associations dites pro-vie avaient tout fait pour bloquer sa commercialisation. Mais ça y est, après une longue, très longue bataille juridique, elles viennent d'être déboutées par le Conseil d'été. D'État, évidemment.
Bah oui.
Et là, on se dit... C'est parce que j'ai remis un pull, aujourd'hui j'ai les boules. Bref. Là, on se dit, c'est rigolo, bah oui, tiens, on se marre. Parce que quand même, parfois, les infos se télescopent et comme un écho de l'une à l'autre, oui. Parce qu'au même moment, il y a ce chiffre venu d'Iran. En 2021, ont été enregistrés à l'état civil 1500 bébés dont la mère avait entre 10 et 14 ans au moment de l'accouchement. Si on élargit le spectre à toutes les Iraniennes de moins de 19 ans, on passe à 70 000 naissances en un an. Oui, oui, c'est beaucoup.
Allez, on termine avec l'étude de la semaine, Julien.
Qui nous vient de l'université de Bath au Royaume-Uni et qui porte sur 6600 couples hétérosexuels américains. Le sujet, la répartition des tâches domestiques. Le résultat, les femmes en font toujours bien plus que les hommes à la maison. Alors, ça, c'est pas 9-9, hein, évidemment, et vous trouverez certainement quelqu'un pour vous le justifier, pour vous dire qu'en fait, si ça se passe comme ça, c'est que comme les femmes touchent de plus petits salaires pour tout un tas d'obscures raisons, quand les enfants arrivent, il est dans l'intérêt du couple que ce soit elle qui lève le pied au boulot et se concentre sur le foyer, la perte salariale globale étant du coup moins grande. Et comme ça, c'est logique, et comme ça, tout le monde est content.
Sauf que ça marche pas. Ce que cette étude nous apprend pour le coup, c'est que plus les femmes gagnent, plus elles portent de poids domestique. Pourquoi ? Eh bien pour compenser, expliquent les chercheurs, les normes de genre étant ce qu'elles sont, les hommes vivent mal de gagner moins, de ne pas être le chasseur de mammouth qu'ils devraient être. Du coup, pour que l'inversion de schéma ne soit pas totale ou trop évidente, on renforce le rôle d'épouse et de mère. Dans ces couples-là, les femmes se retrouvant à trimer à la maison pour que tout le monde retombe sur ses pattes bien genrées. Bref, si vous avez vaguement l'impression que quoi qu'il arrive, on se fait toujours un petit peu bananer, vous n'avez pas totalement tort.
Allez, la révolution permanente de Julia Foyce dans Un jour dans le monde, c'est tous les mardis, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal. Ce soir, Claude, on se penche sur la Turquie. Où hier, le mécène Osman Kavala, qui est la bête noire d'Erdogan, a été condamné à la prison à perpétuité, accusé d'avoir tenté de renverser le président Erdogan.
Oui, à l'heure, Fabienne, où le président turc est en pleine opération de réhabilitation sur la scène internationale, hein, avec le rôle clé qu'il cherche à jouer dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, le couperet qu'il vient d'abattre sur Osman Kavala montre à quel point Recep Tayyip Erdogan est en fait un homme qui a peur, un homme qui sait qu'en interne, son pouvoir ne tient que par cette peur qu'il inspire. Je m'explique. Osman Kavala, vous le savez Fabienne, ce n'est pas un opposant classique, pas un militant de parti politique, ce n'est pas un homme que l'on voyait agiter des pancartes au premier rang des manifestations en Turquie, ce n'est pas un homme qu'on voyait dans les studios des médias. Pour resituer le personnage en quelques mots, Osman Kavala, 64 ans, c'est un riche homme d'affaires turc qui a joué ces 15 dernières années un grand rôle philanthropique dans les milieux artistiques et culturels turcs, en finançant et en organisant, grâce à sa fondation, eh bien des événements, des conférences, des spectacles, en fait une sorte de plateforme culturelle devenue un lieu d'échange sur la société, sur les droits des minorités, la citoyenneté, un espace qui a fait de cet homme très discret, mais aussi très introduit dans tous les milieux, hein, turcs comme occidentaux, un facilitateur de toutes ces petites avancées dont on a crédité Recep Tayyip Erdogan au début de son pouvoir. Vous savez, cette époque où il était perçu comme un ovni politique, un islamo-libéral capable, on l'a vu à l'époque, d'avancer sur les Kurdes ou sur la question du génocide arménien.
Sauf que tout a changé en 2013 avec le mouvement de contestation de Gezi.
Alors, ce mouvement, on s'en souvient, hein, c'était au départ pour empêcher l'arrachage des arbres de ce parc d'Istanbul, Gezi, qui avait été du coup transformé en camp d'occupation et en gigantesque protestation contre la dérive autoritaire d'Erdogan. Alors, accusé d'avoir financé ces manifestants, Osman Kavala avait fini par être acquitté, puis immédiatement réemprisonné, accusé cette fois d'avoir trempé dans le coup d'État raté de juillet 2016. Il faut savoir quand même que les juges qu'il avait acquittés ont été poursuivis par la justice. Hein, c'est dire l'acharnement. Osman Kavala a toujours nié les charges contre lui. Son procès entaché d'irrégularité ne lui a donné aucune chance de se défendre. Condamné à perpétuité, donc sans possibilité de remise de peine.
Et son cas a suscité l'émotion de la communauté internationale.
C'est un vrai bras de fer. À l'automne dernier, Ankara avait même menacé d'expulser une dizaine d'ambassadeurs occidentaux, hein, dont l'ambassadeur américain, qui avait osé réclamer sa libération. La Cour européenne des droits de l'homme a entamé une procédure contre la Turquie. De nombreux pays se sont émus. Erdogan, qui est quand même en grosse quête, hein, de reconnaissance internationale, aurait pu gagner beaucoup en faisant un geste. Eh bien, rien à faire. Il a fait d'Osman Kavala une affaire personnelle. Il en a fait l'incarnation de tous les épouvantails qu'il agite devant la société turc. Il en fait un milliardaire sans scrupules. Il le présente comme une taupe des occidentaux, comme l'homme lige du financier américain George Soros, suspecté de vouloir renverser le pouvoir pour affaiblir une Turquie devenue trop puissante. Bref, le diable incarné.
Mais alors Claude, la communauté internationale, est-ce qu'elle a vraiment les moyens d'agir ?
Elle condamne, Fabienne, mais elle ne va pas plus loin. Erdogan n'en a que faire de la communauté internationale. Hier, au moment même, hein, où Osman Kavala a été condamné, le président turc recevait à Ankara Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Le mois dernier, 4 dirigeants européens sont venus le voir pour solliciter son aide dans la médiation russo-ukrainienne. Et comme avec la question des réfugiés, hein, qui est son épée de Damoclès migratoire, Recep Tayyip Erdogan se sait intouchable, indispensable, en Libye, en Syrie, en Méditerranée et désormais en Ukraine. Mais chez lui, le colosse a peur. Il a peur de tous ceux qui pourraient faire vaciller son pouvoir. Avec Osman Kavala, il fait donc un exemple en condamnant avec lui à de très lourdes peines de prison ses co-accusés qui comparaissaient, eux, libres. Il tue tout espoir en interne de voir les choses changer et il le fait
impunément, sachant à quel point la communauté internationale n'a pas d'autre choix que de composer avec ce partenaire sulfureux qui a su se rendre incontournable.
Le monde d'après de Claude Guibal. Merci beaucoup Claude. Bien sûr, à demain, le 18-20 reste ouvert pour la deuxième heure. Après, dans un instant, c'est le journal de Claire Chaudière et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.